L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h et c'est la cinquième saison de L'EM avec toujours d'excellentes habitudes et d'excellents partenaires comme Eau et Rivière de Bretagne. Le sujet est délicat et on va revenir sur une question qui a quelque peu pourri notre fin du mois d'août puisqu'on ne pouvait plus boire l'eau du robinet dans la moitié du Finistère pendant quelques jours. En cause, l'usine de méthanisation de Châtelain dont un déchet s'était déversé accidentellement dans l'Aulne, le fleuve auquel on s'abreuve massivement apparemment. Outre que c'était désagréable de devoir se fournir en bouteilles d'eau plastifiée, cet incident a provoqué plusieurs débats sur notre modèle agricole en particulier et sur l'organisation de la captation d'eau potable, donc deux sujets qui intéressent Eau et Rivière de Bretagne, dont on reçoit le directeur opérationnel Arnaud Clugery. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors on va commencer par le sujet méthanisation, parce qu'en fait c'est un sujet qui fédère un collectif d'associations dont Eau et Rivière de Bretagne, mais aussi d'autres et des partis politiques également. Déjà, quel est le principe de fonctionnement de la méthanisation ?
Alors, la méthanisation, c'est un processus de dégradation de la matière organique par des bactéries dans une cuve qu'on appelle un digesteur et dans lequel sont introduits des effluents d'élevage type lisier, des fumiers, parfois des bouts de station d'épuration. On peut trouver des résidus de culture, on peut y mettre des déchets verts, on peut y mettre des déchets d'agroalimentaire. Enfin, on peut mettre dedans tout ce qui contient du carbone notamment et de la matière organique. Ça va monter en température dans une atmosphère privée d'oxygène et le mélange en se dégradant lentement va produire un gaz, le méthane, va ensuite être utilisé soit directement en réinjection dans des réseaux de gaz pour le gaz de ville, pour faire rouler des véhicules. On a certains transports collectifs comme les bus qui peuvent les utiliser directement. On peut aussi le recompresser pour le faire circuler dans les réseaux de gaz naturel. Et puis la deuxième façon de l'utiliser, ce gaz, c'est de faire de la cogénération, donc de faire de l'électricité à partir de ce gaz pour alimenter toutes sortes de besoins. Voilà.
Et quel est le type de déchets qu'on méthanise ?
Alors il faut un déchet qui contient beaucoup de carbone, c'est évidemment, puisque le méthane est un gaz qui contient du carbone. Donc plus vous avez des déchets carbonés, plus vous avez de chances de produire ce gaz. Donc pour être précis, on sait qu'un lisier, par exemple, de porcherie n'est pas très riche en carbone, donc il n'est pas très méthanogène. À l'inverse, un fumier, donc avec des pailles, mélangé avec des pailles, va l'être beaucoup plus. Et en fait, après, c'est une recette, c'est un savant équilibre que l'exploitant du méthaniseur doit trouver pour que son digesteur fonctionne le mieux possible. Donc ça va dépendre beaucoup des intrants, de la quantité de matière qu'il a à mettre dedans.
Mais ce n'est pas forcément des déchets agricoles, si ?
Non, c'est pas forcément, ça peut être des déchets d'industrie agroalimentaire, alors qu'ils sont aussi des déchets finalement agricoles, mais avec déjà une transformation en agroalimentaire. On peut aussi avoir des méthaniseurs qui fonctionnent avec des biodéchets des collectivités. En fait, il y a quelques villes en Europe et en Bretagne, par exemple, Lorient fait une collecte sélective séparative des déchets en ville. Et donc, ce sont des déchets qui peuvent, donc de notre poubelle, qui peuvent avoir un pouvoir méthanogène. Ouais.
Mais alors comme ça, la méthanisation, ça a l'air formidable. C'est l'économie circulaire, donc on produit de l'énergie avec des déchets. Pourquoi est-ce que vous êtes plusieurs, une trentaine je crois, à lancer cette pétition contre la méthanisation ?
Parce qu'on, ce dont on se rend compte en Bretagne, c'est qu'on est sur une région vraiment très particulière au regard des autres régions françaises, pour ne pas dire européennes. Enfin, on va retrouver des régions qui ressemblent un peu à la Bretagne ailleurs, mais parlons de la France, parce qu'elle accueille déjà une très grosse industrie agricole et agroalimentaire. Et alors pour donner des ordres d'ampleur, hein, il y a 3300 installations classées pour la protection de l'environnement de type élevage en France, et il y en a 50%, donc plus de 1500 qui sont concentrés en Bretagne, la Bretagne étant 6% seulement de la surface agricole utile française. Donc, alors ça, c'est une autre façon de dire que la Bretagne élève 60% des cochons français, près de 30% des bovins lait, plus de 50% des volailles. Alors, tout le monde le sait, la Bretagne est un territoire où l'industrie de l'élevage est extrêmement développée et concentrée. Et donc, c'est bien cette industrie de l'élevage qui produit beaucoup de matières organiques, hein, des effluents d'élevage. Donc, on est dans une région qui est sursaturée en effluents d'élevage et en outils de stockage et de gestion de ces effluents, hein, les fameuses ICPE, voilà. La première remarque que l'on peut faire sur le risque que l'on pointe de voir se développer en parallèle une industrie d'énergie adossée à ce système-là, c'est que l'on va multiplier les lieux de stockage et de transfert de ces fluides, sachant que le stockage et le transfert des lisiers et des fluides en général agricoles est déjà un point très difficile de la Bretagne, puisqu'elle fait déjà peser sur la Bretagne un risque accidentogène très fort. Sans parler de méthanisation, on a par exemple dans les deux dernières années eu plus de 30 accidents sur des élevages qui ont conduit à des dégradations de cours d'eau. Donc vous voyez qu'on adosse à une industrie qui a déjà elle-même ses propres impacts sur la nature, une nouvelle industrie de production d'énergie, ce qui nous fait évidemment craindre le pire. On est qu'au début de ce processus et on a déjà les premiers événements qui nous montrent que quand on a cette crainte, on ne se trompe pas beaucoup.
Oui, parce qu'il y a eu Châtelain, bon, l'incident donc, du méthaniseur de Châtelain, mais il y en avait eu d'autres avant. Dans le Finistère ou ailleurs, non ?
Alors, en Finistère, il y en a eu deux autres significatifs. Il y en a un qui a brûlé avant même d'être mis en service du côté de Pouvorne. Et puis surtout, il y en a un à Bezec-Cap-Sizun qui a détruit près de 3 km de cours d'eau il y a deux ans de ça, et qui aujourd'hui d'ailleurs est en enquête publique pour son agrandissement. C'est l'entreprise Cap Meta, dont l'enquête publique est en cours, qui a d'ailleurs aussi communiqué à la suite de l'accident de Châtelain en disant qu'il avait pris des mesures de protection des cours d'eau en élevant une digue, alors sans trop d'ailleurs dire que c'était consécutif à une pollution majeure générée par son exploitation. Dans cette actualité, l'extension de ce méthaniseur à Bezec-Cap-Sizun suscite beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, il y a pas mal de collectifs et d'associations qui appellent à manifester dimanche 27 septembre à la pointe du Millet de 15h à 18h pour inciter, en faisant d'ailleurs une démarche intéressante. C'est une mairie, comment ils ont appelé ça, une mairie annexe. Voilà, ils ouvrent une mairie annexe de 15h à 18h, puisque le projet est en enquête publique. Et vous savez, les enquêtes publiques sont en mairie, souvent sur des heures où les gens sont eux-mêmes au travail. Donc, pour que cette enquête publique touche vraiment le public, eh bien, il y a un certain nombre d'associations, dont Haies-Rivières, qui appellent à manifester.
Donc là, c'est un dimanche. Ouais.
Voilà, un dimanche.
Ce dimanche.
Voilà, et les gens pourront déposer à l'enquête publique et dire tout le bien qu'ils pensent de l'agrandissement de ce méthaniseur.
Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Combien il y a de méthaniseurs en Bretagne, à peu près, pour avoir une idée?
Alors, on en est à environ 130 méthaniseurs ayant leurs autorisations d'exploiter. Il y en a environ 70 qui sont dans les tuyaux. Mais on parle dans le plan de développement de la région Bretagne et le fameux RADET, donc le schéma de développement durable et d'égalité des territoires, je l'ai tout bien dit, je crois,
bien.
d'aller jusqu'à 1000 méthaniseurs, oui, à l'horizon 2040.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire pour rebondir, parce que bon, la question de l'énergie, c'est quand même crucial, puisqu'il faut diversifier les énergies si on veut limiter le réchauffement climatique. La biomasse peut être une option intéressante. Est-ce que justement, pour limiter les circulations de flux de lisiers, etc., ça, c'est pas intéressant d'avoir plus de méthaniseurs plus près, des petits méthaniseurs, même pour des exploitations bio, ils peuvent utiliser éventuellement ça pour leurs déchets, non ?
Alors, le déploiement de cette industrie, un peu, s'est appuyé là-dessus, sur le fait qu'un processus équilibré adossé à des petites exploitations, pouvait trouver des vertus. Sauf que dans les faits, et en Bretagne, encore une fois, je le dis, on est vraiment dans un cas très particulier avec une industrie de l'élevage qui est ultra présente. Ce qu'on voit, c'est se développer une industrie qui est fortement soutenue par l'argent public et qui commence à influer sur le comment dire, c'est une façon détournée de soutenir l'industrie de l'élevage industriel, c'est-à-dire c'est de l'argent public qui va à ce soutien. Alors, je vais revenir sur la question agricole, mais avant ça, quand on rentre dans le dossier, on se rend compte qu'au-delà des principes généraux de la méthanisation, il y a beaucoup de questions qu'un environnementaliste peut se poser ou doit se poser. La première, c'est que c'est un gaz qui est fabriqué à partir du carbone qui est issu des déchets agricoles qui normalement retourne sur les sols. Et ce gaz, en fait, il va d'abord prendre le carbone. Donc le carbone qui est pris pour faire ce gaz, c'est du carbone qui ne va pas retourner dans le sol et donc contribuer à être stocké dans le sol. Or, ce carbone...
Il va retourner dans l'air, quoi.
Enfin, ce carbone, en fait, il est fait pour... Une fois transformé en gaz, il va être brûlé. Donc il n'est pas si vertueux que ça. On est encore dans une énergie carbonée. On n'est pas dans une énergie décarbonée. Donc c'est encore un gaz qui va contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que la méthanisation, elle démontre pas qu'elle n'aurait pas d'impact sur l'environnement. La composition du produit final, puisqu'une fois le gaz fabriqué, il reste un produit qui s'appelle le digesta, qui est une boue sèche ou liquide.
C'est ça qui s'est déversé dans l'eau d'ailleurs, non ?
Exactement, ouais. Qui va être d'abord stocké et répandu. Alors le stockage pose problème, puisque en effet, c'est des tonnes et des tonnes de matière.
Liquide, c'est plutôt liquide.
Alors on a les deux, mais ouais. on a une partie qui est liquide. À Châteaulin, c'est typiquement des problèmes de gestion de flux liquide qui se sont déversés dans le milieu naturel. Mais ce digesta, même épandu, c'est une matière qui a été transformée par un processus chimique et dont on ne connaît pas réellement bien sur la durée le comportement la transformation qu'il va induire dans la composition des sols. Donc il y a aujourd'hui, avant de partir à 100% sur cette technologie, un peu plus de connaissances à acquérir sur ce que va produire le digesta. La méthanisation, elle ne résout pas le problème des nitrates et du phosphore. C'est un peu comme ça qu'est apparue la méthanisation au début des années 2010 en Bretagne, en nous disant ça va résoudre le problème des algues vertes.
On disait quoi ? Ça va remplacer les engrais azotés, artificiels, c'est ça ?
Dans un premier temps, on a dit... On a laissé à croire que finalement le nitrate allait disparaître dans le méthaniseur. Chimiquement, complètement impossible. Il y a un kilo de nitrate qui rentre dans un méthaniseur, c'est un kilo qui sort, puisque le méthane ne contient pas de nitrate. Et puis ensuite, en effet, on est aujourd'hui sur un discours qui laisse penser que cette matière transformée va pouvoir se substituer aux achats extérieurs des exploitations qui achètent toujours de l'ammonitrate. On a eu aussi un épisode d'actualité cet été avec le stockage de l'ammonitrate à Saint-Malo qui, après l'accident de Beyrouth, montre quand même que ces engrais-là apportent un danger aussi.
Hautement explosif, voilà. Ouais.
Mais là, c'est pareil, il n'y a aucune certitude là-dessus, c'est-à-dire que il n'y a pas ni d'engagement réel contractuel à subtiliser les achats extérieurs par le digesta, ni de grande certitude sur le pouvoir agronomique de ce digesta, la capacité qu'a ce digesta à convaincre l'exploitant que c'est vers ça qu'il doit aller, les exploitations agricoles. Donc c'est un vœu pieux un peu, mais qui nécessiterait d'avoir plus de certitude. Et puis la troisième chose, c'est que les matières non digérées par les bactéries du méthaniseur, elles sont destinées à l'épandage et elles soulèvent des interrogations qui sont légitimes sur leurs impacts sanitaires. On a vu, on est en pleine crise sanitaire, on est très sensible à la question des germes pathogènes, des virus, des microbes, et ces germes-là qui sont dans les digestats, en fonction de ce qu'on y fait rentrer, ne sont pas les mêmes qu'en sortie. Et il y a comme il s'agit pour chaque méthaniseur d'une petite recette, d'une petite tambouille du moment, eh bien, il n'y a aujourd'hui encore pas de certitude là-dessus. Et puis, je finis sur l'accidentologie, c'est-à-dire qu'avec 100 méthaniseurs, on a déjà presque 3 à 4% d'accidents par an. Eh bien, les 3 ou 4% d'accidents par an multipliés par 1000, c'est autant de rivières qui vont souffrir à l'avenir. Donc, c'est des grandes craintes sur la question de l'environnement. Et j'attends qu'on me relance sur la question agricole.
C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, là, il y a donc dans les signataires de cette pétition qui est sortie, elle est sortie la pétition, elle va sortir.
Elle est en cours de co-signature et elle sera rendue publique la semaine prochaine.
Bon, d'accord, on la mettra en temps et en heure sur le site de Radio Évasion. Mais il y a donc des syndicats agricoles, il y a la Maison de la Bio qui signe cette pétition contre la méthanisation. Alors que quelque part, ça pourrait aussi, pour un agriculteur bio, une petite unité pourrait aussi lui permettre d'augmenter ses revenus, non ? Enfin,
c'est une pétition qui soutient un manifeste pour un moratoire sur le développement des méthaniseurs en Bretagne et le renforcement des contrôles existants. Ce n'est pas une pétition qui est contre la méthanisation dans son ensemble, mais contre la méthanisation dans la façon dont elle se déploie en Bretagne.
Donc c'est une précision importante.
Tout à fait. Ouais. Et donc en effet, nous on est très content de co-porter ce manifeste Association de protection de la nature Bretagne vivante et Hautes Rivières de Bretagne avec des organisations paysannes pour ne pas
et
dire
et le CIVAM aussi.
Alors d'ailleurs. Voilà, donc on va trouver la Confédération paysanne, le groupement des agriculteurs biologiques et le CIVAM, le réseau de
réseau paysan et rural, voilà. On va dire voilà.
Donc pour qu'on ne laisse pas non plus croire qu'il s'agirait d'une énième, je ne sais quoi, gesticulation des écologistes, des Amish.
Des Amish, tout seuls dans leur coin.
Voilà, contre les Amish de la terre. Non, pas voilà. Du tout. C'est main dans la main avec les organisations paysannes que nous lançons ce manifeste, parce que l'agriculture paysanne a beaucoup à perdre avec le déploiement tel qu'il se produit de la méthanisation. La méthanisation, elle accentue un modèle agricole intensif, elle maintient et développe des élevages hors sol qui sont la plupart du temps intensifs, c'est ce qu'on observe, c'est des faits, et elle offre un débouché finalement à des effluents qui sont déjà en surplus. Et donc, en fait, elle va contribuer à maintenir le système qui est un système dysfonctionnel, puisque, je le rappelle, il ne fonctionne que parce que l'on importe des protéines qui contribuent notamment à la déforestation de l'Amazonie. Enfin, alors ça, c'est sur ce qui rentre en Bretagne. Et puis, on connaît les problèmes des marées vertes, les surépandages et les problèmes d'eau potable. Enfin, j'en passe et des meilleurs. La méthanisation est conduite aussi à un processus d'accaparement des terres. Parce que avec ce nouveau revenu, et ça, c'est ce qu'on a pu observer sur des pays qui s'y sont lancés avant nous, en Allemagne.
Il y a beaucoup de méthaniseurs en Allemagne. Voilà. Je sais pas, 8000, non, en plus, non ?
Oui, c'est, et puis ils y sont depuis longtemps. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ce dont il faut se garder, c'est d'avoir aujourd'hui des exploitations qui, avec le revenu de l'énergie, puissent renchérir sur l'accaparement de terres au détriment d'agriculture de petits exploitants ou plutôt de dimension agriculture paysanne qui, eux, n'auraient pas justement ces appuis financiers que représente l'apport d'énergie. On a des situations en Allemagne où à un moment donné, l'agriculture se fait quasiment sortir du territoire parce que les grands groupes de production d'énergie gagnent plus d'argent à vendre du méthane qu'un éleveur gagne à vendre du lait. Donc c'est un risque que les paysans...
Oui, ils deviennent producteurs de méthane.
Bien sûr, on devient énergivore plutôt que producteur d'aliments. Donc c'est un risque que les organisations paysannes ne veulent pas courir. Et puis il y en a un troisième, c'est que, c'est fort ce propos, c'est que pour les organisations de l'agriculture paysanne, il faut se battre l'agriculteur puisse vivre décemment et avec dignité du revenu alimentaire qu'il produit. Et aller chercher à corriger ce problème majeur que sont les prix agricoles trop faibles en apportant uniquement une réponse avec un complément qui viserait à produire de l'énergie, c'est quelque chose que dénoncent les organisations parce que... C'est la production alimentaire qui doit être rémunérée et pas autre chose, quoi. Donc ça va complètement dans la logique de ces organisations paysannes qui défendent un modèle d'agriculture qui est en plus celui attendu par tous en termes de transition agroécologique. Et donc pour nous, la méthanisation, c'est le signal contraire à cette transition agroécologique.
Et pour elle, pour ces petites structures agricoles, ça ne serait pas intéressant un autre type de méthanisation ?
Alors potentiellement si, mais elle n'aurait rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la petite méthanisation à la ferme, on en parle souvent. Alors déjà, c'est quoi petite méthanisation? Et puis surtout, ça ne pourrait être que des méthaniseurs qui fonctionnent de façon discontinue. Quand il y a des déchets, ils tournent. Quand il n'y en a plus, on s'arrête. Là, ici, on fabrique aussi, nous on appelle ça des aspirateurs à déchets. On a connu ça avec les politiques d'incinération des ordures ménagères. Quand vous avez des gros équipements qui ont demandé énormément d'investissement, vous ne pouvez pas vous permettre qu'ils s'arrêtent. Donc à un moment donné, en fait, vous devenez un aspirateur à déchets.
Et on incite à faire du déchet.
Et des transports. Voilà. Et donc au lieu d'aller vers une réduction des déchets, vous avez ces outils qui peuvent contribuer au contraire de la logique de réduction des déchets.
Bon. Est-ce qu'on a épuisé le sujet? Je ne sais pas.
C'est un sujet très complexe, sujet à débat permanent. Le manifeste appelle à trois choses. Il appelle à ce que l'on suspende les autorisations et les instructions du moment sur les nouveaux incinérateurs, méthaniseurs. Il appelle ce manifeste à ce que des contrôles soient renforcés et l'obligation de prescription soit mise en œuvre sur les méthaniseurs existants pour que l'on ne puisse plus, en cas d'incident industriel, avoir un rejet direct dans les cours d'eau. C'est ce qu'on demande aussi pour les élevages porcins, d'ailleurs, hein, où se multiplient les accidents de faux salisiers. Et le troisième point, c'est la suspension des aides de la région Bretagne et de l'ADEME pour que cet argent aille au soutien à la transformation du modèle agricole. C'est quand même paradoxal. On a du mal parfois, on l'a entendu, on a du mal à finir de payer les aides publiques pour les conversions à la bio, mais on trouve des millions d'euros pour les méthaniseurs qui sont faits sur des élevages qui sont le contraire de l'agroécologie. Donc c'est, nous, ce paradoxe, on n'en veut plus.
Cet accident de Châtelain avait aussi soulevé une question sur la circulation de l'eau potable, sur les captages, où est-ce qu'on capte l'eau potable, pour quelles communes. Et là, Eaux et Rivières de Bretagne avait quand même eu un petit mot à dire aussi.
En fait, c'est assez étonnant de voir que cet accident a été révélateur d'une situation sur laquelle on alerte depuis longtemps, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 80 et l'augmentation forte de la pollution des eaux souterraines, on a vu des politiques de protection de captage communaux se mettre en place, et dans ce cadre-là, on a vu énormément de communes abandonner leurs ressources locales parce que protéger, c'était mettre en place des acquisitions de terres, c'était très compliqué, puis parfois c'était pas très politiquement correct pour la prochaine élection du moment.
Protéger ses captages, quoi, faire en sorte qu'ils ne soient pas pollués.
Voilà, ça voulait dire acquérir des terres, interdire un certain nombre de pratiques, etc. Donc on a eu énormément d'abandons de captages communaux, et à chaque abandon de captage communal, il faut se reporter sur une autre ressource. Et de proche en proche, sur 30 ans, on a vu une vraie pieuvre se déployer par le biais des interconnexions d'une commune à l'autre. On a quelques rivières du Finistère qui sont devenues les fontaines des villes. On pourrait en citer deux, les Lornes pour toute la partie Nord-Finistère et l'Aulne pour toute la partie Sud-Finistère.
Et parce que là, la pollution, elle touchait donc 180 000 habitants et une quarantaine... Communes. 50, ouais.
En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'heure où on parle d'alimentation de proximité, les Finistériens sont en train de se rendre compte que finalement, le produit alimentaire qui est le plus éloigné de chez eux, c'est l'eau. Des gens
jusqu'à la forêt Fouesnant,
se sont rendus compte qu'ils buvaient, en toute ignorance, qu'ils buvaient de l'eau qui avait pour origine l'Aulne. Donc nous, c'est l'occasion aussi de rappeler que la vraie sécurité de l'alimentation en eau potable des populations, c'est l'alimentation de proximité. Et donc nous, comme on n'a jamais cessé de le faire, on plaide pour la réouverture des captages communaux.
Parce qu'il y en a plein, en fait, des captages communaux. Est-ce qu'il y a seulement des communes qui n'ont pas de rivière sur leur territoire?
Il y a encore quelques communes qui sont alimentées à 100% par des captages communaux, qui sont souvent des captages d'eau souterraine, qui sont plus faciles d'ailleurs à potabiliser. Mais qui,
Et il y en aurait suffisamment
Alors, en fait, aujourd'hui, on a tellement réorganisé la politique de l'eau qu'il est difficile de passer de tout l'un à tout l'autre. Mais partout où on pourra rouvrir des captages communaux, donc j'invite les élus à faire l'effort de rouvrir ce dossier qui des fois est dans un placard depuis bien longtemps et se demander, peut-être que la situation de la qualité de l'eau sur leur commune a évolué en 30 ans, parce qu'on ne peut pas ignorer que des progrès ont été faits, et donc il est temps de rouvrir ce dossier et de voir s'il n'est pas possible de sécuriser réellement la population en rouvrant les captages. Il y a des communes, je pense à Crozon par exemple, qui au moment de l'alerte ont coupé le robinet de ce qui venait de l'Aulne et ont dit nous on peut être autosuffisant, autonome en eau, donc il n'y a pas de crainte. Ça, c'est une vraie sécurité.
Et puis pour protéger les captages, il y a des solutions comme par exemple faire des forêts, des petites forêts autour des captages.
Non,
il existe plein de solutions.
Alors en fait, la solution qui devrait être celle qui préside à tout, c'est la transformation de l'agriculture. Il y a évidemment beaucoup de... Contrairement à ce qu'on peut laisser penser, il y a des formes d'agriculture qui sont très largement compatibles avec la qualité de l'eau et la production d'eau potable. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture biologique. C'est celle qui a un cahier des charges qui aujourd'hui est le plus... sécurise le mieux les bons usages d'intrants, de pesticides ou autres, puisque pour le coup, c'est interdit pour eux, en tout cas pour tout ce qui est chimique.
Bon, mais on y reviendra avec les acteurs de l'agriculture qui viendront bien dans l'EM. Enfin, le CIVAM vient souvent et la Maison de la Bio très prochainement sans doute. Merci Arnaud Clucherier aux Rivières de Bretagne qui revient dans un mois.
Ben avec plaisir, oui.